Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes à la question 84. Du traité sur les fins dernières, qu'on appelle De Novissimis. Les fins dernières, donc, et Saint Thomas est actuellement en train d'étudier, dans ce supplément, donc les quatre privilèges des corps glorieux. Je vous les rappelle, l'impassibilité, la clarté, la subtilité et l'agilité. À la question 84, il va traiter de l'agilité des corps des élus. L'agilité, c'est-à-dire la possibilité pour les corps glorieux de se déplacer de façon extrêmement rapide. Alors voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Donc, première question, article 1, la question 84 du supplément. Les corps des élus sera-t-il doué d'agilité? Alors voilà ce que dit Saint Thomas, le corps glorieux sera absolument soumis à l'âme glorifiée, non seulement en ce sens qu'il n'opposera aucune résistance à sa volonté, car Adam innocent jouissait de ce privilège, mais parce que l'âme lui communiquera une certaine perfection aux prérogatives qui le rendra capable de cette soumission totale. Donc il n'y aura plus de révolution, si vous voulez, entre les différentes parties, les différentes puissances de l'âme. Donc les passions seront parfaitement soumises dans l'homme ressuscité au ciel. Les passions seront parfaitement soumises à la volonté à l'intelligence et l'intelligence à Dieu. De toute façon, strictement parlant, il n'y aura plus de passion au sens moderne du terme dans les âmes des élus, dans les corps des élus, parce que, encore une fois, il n'y aura plus qu'une seule chose qui importera pour les élus, à savoir plaire à Dieu et jouir de cette gloire extraordinaire que Dieu donne à ses élus. Donc le corps glorieux sera parfaitement soumis à l'âme. Donc par la subtilité, il le sera comme à la forme dont il reçoit son être spécifique, par l'agilité comme au principe de son mouvement, par lesquels il obéira docilement, promptement à toutes les impulsions, les actions de l'âme. Il n'est plus raisonnable, dit saint Thomas, de la faire dépendre de l'âme qui communique au corps la gloire dont elle jouit elle-même. Il n'y aura plus aucune opposition entre l'âme et le corps, comme c'est le cas ici-bas. Donc le mouvement ne leur coûtera donc aucun effort. Il y aura donc une possibilité pour les corps glorieux de bouger selon leur volonté, ce qu'on appelle l'agilité. Alors les élus feront usage de cette agilité. Ce mouvement ne diminuera en rien leur béatitude qui consiste dans la vision de Dieu, dont ils jouiront partout où ils seront. Il en sera d'eux comme des anges dont Saint Grégoire dit, où qu'ils soient envoyés, c'est en Dieu qu'ils courent. En fait, ce don d'agilité sera utile simplement dans la mesure où ces corps glorieux quittent le paradis pour remplir une mission sur la terre. Au ciel, strictement parlant, les corps glorieux seront immergés dans la gloire divine et donc ils n'auront rien d'autre à faire que de jouir de cette joie extraordinaire que provoquera en eux l'habitation de la gloire divine dans leur âme. Encore une fois, c'est un mystère, hein. Beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ici-bas. Alors, le mouvement chez ces corps glorieux sera instantané. Hein. Alors, je suis en train de vous dire une bêtise là. Je reprends donc ce que je viens de dire. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Il se pose la question, le mouvement sera-t-il instantané? Le mouvement d'agilité. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Dans le mouvement local, dit-il, l'espace, le mouvement et le temps ont la même divisibilité. Or, l'espace parcouru par le corps glorieux est divisible, donc son mouvement l'est aussi et se mesure par un certain temps. Il ne peut donc pas être instantané puisque l'instant est indivisible. Donc, saint Thomas refuse, contrairement à ce que je pensais, saint Thomas refuse au corps glorieux l'hypothèse du mouvement instantané. Donc, c'est une opinion de saint Thomas d'Aquin. Sur le sujet, n'oublions pas, je vous l'ai déjà expliqué, que toutes ces opinions correspondent aux opinions de jeunesse de saint Thomas d'Aquin. Vraisemblablement, saint Thomas d'Aquin aurait peut-être modifié certaines de ses opinions à la fin de sa vie, mais il n'a pas eu le temps malheureusement de terminer la somme. Donc le corps glorieux sera toujours un corps, sans jamais acquérir une nature purement spirituelle. Cependant, cette agilité donnera une liberté, si vous voulez, de mouvement extraordinaire, hein, qui est en partie mystérieuse. Donc le plus probable, dit saint Thomas, c'est que le corps glorieux se meut dans le temps, mais un temps que sa brièveté rend imperceptible. Et encore une fois, c'est encore un exemple là, de ces différentes idées manifestées par saint Thomas qui doivent se compléter les unes les autres. Hein. Donc, au début, il dit expressément qu'il faut refuser au corps glorieux l'hypothèse du mouvement instantané, mais juste après, à la fin de l'article, il dit que le corps glorieux se meut dans le temps, mais en un temps que sa brièveté rend imperceptible. C'est des nuances un peu spéciales. Encore une fois, c'est ce qui me frappe quand on étudie ces textes-là, on sent bien... Je l'ai déjà dit, mais ça me frappe à chaque fois que j'étudie ces textes. On sent qu'il y a qu'il n'y a pas dans la théologie de saint Thomas d'Aquin de ses débuts qui était professeur à l'université de Paris, tout à fait au début de sa carrière professionnelle, sa carrière universitaire, il n'avait pas encore toute la si vous voulez, l'équilibre, la grandeur qu'on retrouve dans la somme de saint Thomas d'Aquin qu'il a écrite à la fin de sa vie, hein, puisqu'il est mort en 1274. Donc il est impossible de soustraire un corps à la nécessité d'occuper un lieu ou une position déterminée, à moins de lui enlever sa nature corporelle dont elle est la conséquence. Donc, aussi longtemps qu'il garde cette nature corporelle, son mouvement ne peut pas être instantané, quelle que soit l'énergie de son moteur. Conclusion qui s'applique au corps glorieux, puisqu'il ne cessera jamais d'être un corps. Cependant, il aura une possibilité, si vous voulez, de se mouvoir à la vitesse de l'éclair. Alors, voyons maintenant la clarté, donc après l'impassibilité, la subtilité, l'agilité, maintenant la clarté. La clarté, c'est la question 85, est une prérogative du corps glorieux. La clarté aura pour cause le rejaillissement de la gloire de l'âme sur le corps. L'âme, étant glorieuse au ciel, rejaillira dans cette gloire sur le corps. La clarté spirituelle dans l'âme sera donc corporelle dans le corps et en lui comme en elle proportionnée au mérite. Donc la clarté du corps manifestera donc la gloire de l'âme comme un vase de cristal reflète la couleur de l'objet qu'il renferme. Donc il y aura une lumière extraordinaire, une lumière qui est un fruit de la lumière de gloire qu'il y a au ciel, une lumière extraordinaire qui diffusera, qui aura sa source évidemment dans la lumière divine, mais qui manifestera, si vous voulez, cette union parfaite qui existera pour les corps glorieux entre l'âme et le corps. Alors, La gloire du corps, dit saint Thomas, ne détruira donc pas sa nature, mais la perfectionnera. La couleur qui lui est naturelle demeurera donc, mais la gloire de l'âme y ajoutera un nouvel éclat. Donc, ce qu'on appelle le don de clarté. Alors, est-ce qu'il est possible, se demande saint Thomas, pour un œil non glorifié, de voir la clarté du corps glorieux? Donc, il répond négativement. La clarté du corps glorieux peut être... il répond positivement en disant que la clarté du corps glorieux peut être vue par un œil non glorifié, mais pas de façon parfaite. Il n'y a qu'au ciel qu'on pourra comprendre toute cette gloire des corps glorieux ici-bas. On peut en comprendre qu'une partie. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette clarté vient de la clarté divine. C'est la clarté divine qui rejaillit en partie sur les âmes des élus. Et donc, cette clarté divine, on ne peut pas la voir ici-bas. C'est impossible. L'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Rappelez-vous les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, qui voient une toute petite partie de la gloire divine lors de la transfiguration et qui paniquent complètement. Ils tombent la face contre terre. Ils n'ont même pas à relever les yeux à cause de la clarté extraordinaire, la brillante clarté de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pourtant ne s'est manifestée que presque imperceptiblement, de façon très, très, très imparfaite, puisqu'encore une fois, on ne peut pas voir la clarté divine ici-bas sur la terre, c'est impossible. Alors, saint Thomas, donc, continue, je passe pour m'attacher simplement sur les parties importantes pour vous. Les corps glorieux est-il nécessairement vu par un œil non glorifié? Donc le corps glorieux, dit saint Thomas, obéira parfaitement à l'âme, il sera donc visible ou invisible au gré de celle-ci. Donc l'âme aura la possibilité de se rendre dans son corps glorieux, visible ou invisible par les gens d'ici-bas. Alors on avance. Vous pourrez bien sûr par vous-même lire tous ces articles, mais je vous donne que les parties qui sont importantes pour vous. Alors, après avoir traité des quatre privilèges des corps glorieux, je vous les répète, l'impassibilité, la clarté, la subtilité et l'agilité, saint Thomas va maintenant s'occuper de l'état des damnés. Après les élus, il va s'occuper maintenant de la situation des corps et des âmes des damnés. Donc, il se pose d'abord la question de savoir, donc, à propos de cet état corporel des damnés, si les damnés ressusciteront avec leur difformité corporelle. Et voilà ce qu'il dit. Tous les défauts et difformités corporelles, comme la fièvre, les mal d'yeux, ayant pour principe une corruption, une débilité de la nature ou des principes naturels, seront éliminés par la résurrection. Mais au contraire, les imperfections inhérentes au corps humain de par sa nature même, comme la pesanteur, la passibilité, dont l'état de gloire délivrera les corps des élus, se retrouveront dans le corps des damnés, parce que justement, ils n'auront pas cet état de gloire. Alors, si les enfants, dit saint Thomas, ressusciteront à l'âge de la pleine jeunesse, au contraire, les damnés, eux, ressusciteront sans cet état de gloire, qui est l'état de gloire qu'on ne trouve qu'au paradis. Le malheur des damnés exige donc la présence d'un certain bien naturel, à savoir la nature humaine, œuvre du Créateur parfait, qui la leur rendra dans toute sa perfection spécifique. Par exemple, le démon est toujours un ange, d'accord ? Donc, il faut bien comprendre ça, j'ai déjà souvent expliqué ce point-là, donc ne l'oubliez pas. Le mal absolu n'existe pas. Le mal existe toujours mélangé à un bien. Ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose d'absolument, totalement, à 100% mauvais. Ça ne peut pas exister. Donc, le mal est toujours mélangé à quelque chose de bien. On voit très bien chez le démon. Chez le démon, il y a des choses qui sont bonnes. Qu'est-ce qui est bon chez le démon? Chez le démon, ce qui est bon, c'est sa nature angélique. Il garde une intelligence angélique, même s'il est démon. Parce qu'il est toujours ange. C'est un ange des ténèbres et c'est un ange. Donc, il comprend les choses par intuition bien plus rapidement que nous, ici-bas. Saint Thomas le rappelle, il a une phrase très simple pour l'expliquer, voilà ce qu'il dit. Le mal, s'il n'était que mal, se détruirait par lui-même. C'est la position d'Aristote qui suit. Alors, est-ce que ce corps sera incorruptible? Eh bien, le corps des damnés, ce qui sera incorruptible. Il répond en disant que cette incorruptibilité corporelle des damnés servira à la justice divine qui exige qu'ils vivent toujours pour être punis toujours. Si les corps des damnés étaient corruptibles, il finirait par disparaître. Or, l'enfer va durer aussi longtemps que Dieu est Dieu. Et donc, les souffrances des damnés est liée, à, entre autres, à l'existence de leur corps uni à leur âme. Donc, dans leurs âmes et dans leur corps, les damnés vont souffrir jusqu'à tant que Dieu est Dieu, c'est-à-dire pour toujours. Cette incorruptibilité, donc, exige qu'ils vivent toujours pour être punis toujours. C'est ça, là, le caractère épouvantable de l'enfer. Donc, il a une autre phrase pour expliquer ce que je viens de dire. L'immortalité met le comble aux maux des damnés, puisqu'ils ne finiront jamais. Alors, il se pose la question de savoir si les corps des damnés seront impassibles. Évidemment, la réponse est négative. Les corps des damnés seront passibles, c'est pour ça qu'ils vont souffrir. Le corps des damnés sera passible de cette manière. Leur sensibilité s'exercera, donc ressentira la souffrance, sans pourtant que l'état naturel de leur corps soit modifié. Donc ils vont souffrir les douleurs épouvantables de l'enfer. Donc j'insiste un peu sur cette question 89 du supplément, l'article 2. Donc le pouvoir judiciaire, c'est encore une fois le pouvoir de juger, pouvoir législatif, pouvoir de faire les lois, et pouvoir coercitif, c'est pouvoir de juger selon ses lois. Dieu, évidemment, a de façon extraordinaire les trois pouvoirs de juger, de faire les lois, de juger selon ses lois et d'obliger à l'acceptation de ses lois et la condamnation qui viennent des lois. Et donc, ce pouvoir judiciaire, ça c'est important, c'est bien précisé dans saint Thomas, ce pouvoir judiciaire est dû à la pauvreté. Donc l'esprit de pauvreté va rendre possible ce pouvoir judiciaire. D'abord par raison de convenance, je répète ce que je viens d'expliquer, donc par raison de convenance, car la pauvreté volontaire est la vertu de ceux qui méprisent toutes les choses du monde adhèrent au Christ seul. Par raison de mérite, car l'humilité appelle l'exaltation des mérites. Et enfin, par la pauvreté, dispose à juger dans la vérité. N'oublions pas que ici on touche à ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques, donc l'esprit de pauvreté, les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui sont les trois vœux des religieux. Pauvreté, encore une fois, contre la concupiscence des yeux. Chasteté contre la concupiscence de la chair et obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Alors ici je répète cette phrase parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai enregistré ou non, parce que j'ai oublié de relancer mon appareil, donc je reprends ces choses, m'excuse si je répète les mêmes choses, je ne sais plus exactement quand est-ce que je m'étais arrêté. Donc dans la marche progressive à la perfection, dit saint Thomas, la première chose qu'on doit abandonner, ce sont les richesses extérieures, car ce sont les derniers biens acquis. Or, ce qui est le dernier dans l'ordre de la génération doit être le premier dans l'ordre de la destruction. C'est pourquoi, parmi les béatitudes qui nous font progresser vers la perfection, la pauvreté est placée la première. De la sorte, la pauvreté correspond au pouvoir judiciaire en tant qu'elle est la première disposition pour la perfection. Le pauvre en esprit est celui qui est détaché de sa volonté propre. Étant détaché de sa volonté propre, le pauvre en esprit peut accepter la volonté du bon Dieu de façon parfaite. Ce pouvoir n'est pas promis à tous les pauvres, même volontaires, mais à ceux qui, ayant tout quitté, suivent le Christ dans la perfection de la vie. Donc il y aura une gloire toute particulière pour les gens qui sont restés fidèles à leurs trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, donc les religieux. Alors ici, il y a une phrase importante de saint Thomas, il dit que les richesses extérieures, par les soucis qu'elles donnent, étouffent la parole de Dieu. Et que parmi les choses qui suivent la pauvreté étant dans la perfection, on peut compter la virginité, le martyre et toutes les œuvres de perfection. Donc les œuvres de perfection ne sont pas possibles sans être délivrées des richesses extérieures, qui étouffent la parole de Dieu et donc empêchent de se rapprocher de Dieu. On peut pas servir de maître à la foi. Alors saint Thomas va aussi se poser la question de savoir si les anges vont juger. Voilà ce qu'il dit, il convient donc que les assesseurs de ce juste possèdent aussi la nature humaine, de manière à être vus par tous, bons et mauvais. Donc il n'appartient pas aux anges de juger. Les apôtres jugeront, certains saints jugeront, mais pas les anges, dit saint Thomas. Donc les anges ne sont pas les juges, mais les exécuteurs et les promulgateurs de ce jugement, ce qui n'est pas la même chose. Alors, saint Thomas se pose maintenant la question à propos des démons. Est-ce qu'ils exécuteront la sentence du juge à l'égard des damnés? Donc, les pécheurs se sont soumis aux démons en péchant, il est juste donc qu'ils lui soient soumis dans les châtiments afin d'être punis par lui. Ça, le drame, c'est que lorsqu'on vit dans le péché mortel, on appartient d'une certaine façon au démon. On adore le démon au lieu d'adorer le vrai Dieu. Donc cela ne réduit en rien d'ailleurs la peine des démons, parce que en tourmentant les autres, ils sont tourmentés eux-mêmes. La société de ces malheureux ne diminue pas leur malheur, elle l'augmente. La société de ces malheureux ne diminue pas leur malheur, mais elle l'augmente. Donc plus, en fin de compte, plus il y a de gens en enfer, plus les souffrances des démons seront augmentées. Alors, tous les hommes, dit saint Thomas, question 89 du supplément, article 5, tous les hommes paraîtront en jugement. Donc, pourquoi? Parce que c'est le pouvoir judiciaire du Christ. Il a répandu son sang d'une manière suffisante pour tous les hommes. Bien qu'il n'ait pas réalisé en tous le salut à cause des obstacles trouvés en certains. Il convient donc que tous les hommes soient assemblés pour le jugement, afin de contempler son exaltation dans sa nature humaine, en laquelle il a été constitué par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc on comprendra, si vous voulez, d'une certaine façon, à ce moment-là, beaucoup mieux, et le mystère de l'incarnation, l'union de l'humanité et de la divinité entre le Seigneur Jésus-Christ, et le mystère de la rédemption. Alors avançons dans ces textes. Les bons seront-ils jugés en ce dernier jugement? Donc, saint Paul répond pour nous, il faut que nous soyons tous présentés au tribunal du Christ pour que chacun rapporte ce qu'il a fait de son propre corps en bien et en mal. Donc il s'agit bien là du jugement pour tous les bons qui devront donc être jugés aussi. Donc il n'y a pas que les méchants qui sont jugés, mais également les bons. Ceci encore une fois pour que la justice et la miséricorde de Dieu soient totalement comprises, au moins en tant que faire se peut. En se livrant totalement au service de Dieu, sans admettre aucun mélange considérable de culpabilité, il n'y a point place pour une discussion au sujet des mérites. C'est le cas de ceux qui, s'étant dépouillés totalement des choses du monde, n'ont plus de sollicitude que pour Dieu seul. Donc ceux-là seront sauvés, mais non jugés, dit saint Thomas. Alors pour ceux, une petite note de saint Thomas, pour ceux qui construisent sur la base de la foi, mais avec du bois, du foin et de la paille, c'est-à-dire qui aiment encore les choses du siècle en se livrant à des affaires terrestres, tout en ne faisant rien passer avant le Christ, et en s'efforçant de réparer leurs péchés par des aumônes, ceux-là gardent un mélange de mérite et de culpabilité. Pour eux, il y a place pour une discussion au sujet de leur menthe, au sujet de leur âme, et ils seront donc jugés et pourtant sauvés. Il y aura une différence de jugement pour ceux qui ont été des grands saints, pour ceux qui, malheureusement, ont vécu beaucoup dans le péché véniel. La punition est l'effet de la justice, tandis que la récompense est celui de la miséricorde. Donc, saint Thomas répète certaines choses. Donc, à la question 89, article 7, il repose la question, les méchants seront-ils jugés? On voit très bien, encore une fois, que le frère Eugénal a pris des textes un peu partout dans les textes primitifs de saint Thomas d'Aquin. Donc il répète la même chose, tous les méchants seront donc jugés. Mais les croyants, chez qui demeure le fondement de la foi, gardent au moins cet acte louable de leur foi. Bien que non méritoire soit la charité, il reste pourtant soi-même ordonné un certain mérite. Il y a donc ici place pour une délibération. Au contraire, les incrédules seront condamnés comme des ennemis qu'on extermine chez les hommes sans discuter leur mérite, justement. Donc, Dieu donnera certaines explications aux élus, mais pas aux damnés, c'est ce que dit saint Thomas. Alors, est-ce que les anges seront jugés au jugement dernier? Donc, saint Thomas répond par la négative. Le prince de ce monde a déjà été jugé, donc les anges ne seront plus jugés. Les anges ne sont plus jugés parce qu'ils sont dans un état où ils ne peuvent plus pécher. Ils ont déjà passé l'épreuve, et la division entre les bons anges et les mauvais anges, et les bons anges ont choisi définitivement notre Seigneur Jésus-Christ, et donc n'ont plus de liberté pour perdre leur bon choix, heureusement d'ailleurs. Les bons anges se réjouiront davantage du salut de ceux qu'ils auront porté aux actions méritoires, c'est entre autres des anges gardiens, tandis que les mauvais anges seront davantage tourmentés par la chute des hommes méchants qui auront été poussés par eux au mal. Alors, avançons dans ces textes de saint Thomas. À question 90, il va examiner la forme sous laquelle le juge viendra. Il se pose la première question de savoir si le Christ nous jugera sous la forme de son humanité. Donc, saint Jean répond, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ a gagné le pouvoir de juger justement par sa passion. Alors voilà ce que la conclusion de saint Thomas. Par sa passion, le Christ a mérité la domination et le pouvoir judiciaire, non seulement sur les hommes, mais sur toute créature. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est pour cela que le signe de ce jugement du Christ sera la croix. Parce que c'est par la croix qu'il a racheté le monde. C'est par la croix qu'il jugera le monde. Alors, ils verront, c'est le texte de Saint-Luc, ils verront le Fils de l'homme venir sous les nuées avec une grande puissance et une grande majesté. Majesté et puissance à partir de la gloire. C'est donc en sa forme glorieuse qu'il apparaîtra. Donc, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sera aussi là pour juger, mais il apparaîtra sous la forme d'une humanité glorieuse. Depuis, humanité glorieuse qu'il a au ciel depuis sa résurrection. Donc, dans le premier avènement, il était venu pour réparer pour nous auprès du Père. Il apparaissait donc dans notre forme d'infirmité, avec notre corps de misère. Mais dans le second avènement, il viendra pour accomplir la justice du Père parmi les hommes. Il devra donc alors manifester la gloire qui lui vient de la communion avec le Père. Il se montrera donc sous la forme glorieuse. Donc, le Christ qui est apparu il y a 2000 ans, qui est mort pour nous sur la croix, il est un Christ souffrant. Le Christ qui apparaîtra à la fin des temps sera un Christ glorieux. Alors, une question importante, c'est la question 90 du supplément, l'article 3. La divinité peut être-elle vue sans jouissance par les méchants ? Alors, saint Thomas répond par un principe philosophique. Tout ce qui est reçu en quelqu'un est reçu selon le mode de celui qui reçoit et non selon le mode de ce qui est reçu. Donc, on ne peut voir la divinité sans en jouir. Dès lors, puisque Dieu est essentiellement la bonté en elle-même, il n'est pas possible de voir la divinité sans en jouir. Donc, c'est un peu un mystère. Dieu jugera les vivants et les morts, il jugera les bons et les mauvais, mais il y aura une espèce de voile qui empêchera les mauvais, les damnés, de jouir de la divinité qui apparaîtra devant eux. Encore une fois, là, c'est un grand mystère. Pourquoi ? Parce que la tristesse des damnés disparaîtrait s'ils voyaient Dieu dans son essence. Donc, ils ne verront pas Dieu dans son essence. Ils le verront d'une certaine façon, mais de façon cachée, justement parce que leur état de damné empêche qu'ils puissent avoir la moindre joie provenant de la vision de Dieu. La question 91, saint Thomas donc va parler maintenant du monde après le jugement. Donc il a déjà un peu parlé, il revient un petit peu là-dessus. Est-ce que ce monde sera renouvelé? De quelle façon sera-t-il renouvelé? Donc il cite Isaïe. Saint Thomas cite Isaïe. Voici que je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres et on ne se souviendra plus des précédents. Ce sont des textes un petit peu mystérieux. Et donc saint Thomas d'Aquin ne cherche pas à détruire le mystère. Et même quand, dans son traité sur la Sainte Trinité, il approfondit de façon extraordinaire ce qu'est la Sainte Trinité, il ne détruit pas le mystère pour autant. C'est la même chose avec la rédemption et le mystère de l'incarnation. Alors, est-ce que le mouvement des corps célestes, c'est-à-dire des étoiles, la lune, du ciel, du soleil, est-ce que ces mouvements cesseront au moment de la fin du monde? Et donc, saint Thomas répond en disant que le mouvement du ciel cessera lors de cette rénovation du monde, non en vertu d'une cause naturelle, mais par la volonté divine. Encore une fois, ce sera un miracle. Alors, continuons d'étudier un petit peu ces textes de saint Thomas. Est-ce que la clarté des corps célestes sera augmentée au moment de cette rénovation du monde? Voilà ce que dit saint Thomas. La créature conduit à la connaissance de Dieu surtout par sa beauté, sa splendeur, qui manifeste la sagesse de celui qui l'a fait et la gouverne. Donc la lumière de la lune, ici Isaïe, la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du soleil sera septuplée. Donc, dit saint Thomas, cette clarté des corps célestes sera augmentée après la rénovation du monde, pour manifester la beauté de notre Seigneur, la beauté de Dieu. Les corps célestes seront donc améliorés dans leur clarté, dit saint Thomas. Les corps célestes ont été créés pour l'homme, mais non comme fin principale, puisque leur fin principale, la fin principale de toute chose, est Dieu. Alors je passe sur les détails. Tous les éléments, dit saint Thomas, revêtiront donc une sorte de clarté, mais tous, pas tous également, mais chacun à sa manière. Ce sera le cas aussi pour d'autres choses, mais dit saint Thomas, les plantes et les animaux cesseront tout à fait d'exister après la rénovation du monde. Ce sera un monde d'ordre spirituel. Alors, question 92, saint Thomas maintenant va parler de la vision de l'essence divine. Dans quelle mesure peut-on voir Dieu? Rappelez-vous la formule. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, ici-bas. Donc, l'intelligence humaine peut-elle parvenir à voir Dieu en son essence? Donc, saint Thomas répond en disant, ici saint Paul, maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière mystérieuse, mais alors nous verrons face à face. Ce qui se voit face à face se voit dans son essence. Donc, les saints dans la patrie verront donc Dieu dans son essence. Cependant, attention, on ne pourra pas voir Dieu tel que Dieu se voit. C'est absolument impossible. Mais on contemplera, on sera immergé en quelque sorte dans l'essence divine. Là, encore une fois, c'est un grand mystère, quelque chose d'incompréhensible pour nous. Pourquoi? Parce que la fin ultime de la vie humaine, au ciel surtout, évidemment, c'est la vision de Dieu. Notre intelligence parviendra donc à voir l'essence divine, mais pas de façon totale. Quand notre intelligence parvient à la totale abstraction de la quidité intelligible, de n'importe quoi, elle connaît par là la quidité de la substance séparée qui est semblable à elle-même. Bon, ça c'est de la haute philosophie, je passe, c'est pas le but du cours. Notre intelligence est faite, c'est le résumé de saint Thomas, c'est plus facile à comprendre, notre intelligence est faite pour abstraire la quidité de tous les êtres intelligibles qui en ont une, pour comprendre la substance des choses. Et donc on comprendra la nature divine, au moins autant que faire se peut, une fois qu'on sera au ciel. Il n'y aura plus d'obstacle du corps. Donc connaître ainsi Dieu ou les substances séparées, ce n'est point voir l'essence divine ou la qualité de la substance séparée, c'est seulement connaître par les effets produits, comme dans un miroir. Alors nous avançons, l'essence divine est par rapport à l'intelligence, comme la forme par rapport à la matière. Donc, encore une fois, là il y a quelque chose de mystérieux. Donc la vision béatifiante, voilà ce que dit saint Thomas, sur cette vision béatifiante qui sera la vision des élus au ciel, puisque l'essence divine est acte pur, elle pourra être la forme par laquelle l'intelligence connaît. C'est la vision béatifiante. Encore une fois, on voit bien que même saint Thomas, dans sa grandeur théologique, ne peut pas passer la porte du mystère. Et donc la conclusion qu'il donne, et je vous l'ai déjà donné d'ailleurs, dans la vision de Dieu, nous voyons la même chose que Dieu, son essence, mais pas aussi parfaitement, parce que nul ne peut voir Dieu tel qu'il se voit lui-même, ne peut comprendre Dieu tel qu'il se comprend lui-même. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. parce que nous sommes créatures alors que Dieu est le créateur. Et il ne doit pas y avoir une proportion entre le connaissant et le connu, mais seulement une certaine proportionnalité. C'est-à-dire que celui qui connaît soit par rapport à ce qui doit être connu, comme le connaissable par rapport à ce qui est connu. Et cette proportionnalité suffit pour que l'infini soit connu par le fini et vice-versa. Donc rien n'empêche que notre intelligence, bien que finie, soit proportionnée à la vision de l'essence divine, non cependant en la saisissant totalement à cause de son immensité. Donc, Saint Thomas revient toujours à la même grande idée, c'est un petit peu le résumé de toute cette partie de la somme. Rien n'empêche que notre intelligence soit proportionnelle à la vision de l'essence divine, l'essence infinie, non cependant en la saisissant totalement à cause de son immensité. Nous ne pourrons pas, même au ciel, comprendre Dieu tel que Dieu se comprend. C'est absolument impossible. Alors continuons d'avancer dans ces textes. Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, voyons, que je me trompe pas. Alors, il y a une petite phrase ici importante de saint Thomas. L'essence divine sera elle-même ce par quoi notre intelligence verra Dieu. Alors, à la question 92 du supplément, article 2, les saints après la résurrection verront-ils Dieu avec les yeux du corps? Voilà ce que dit saint Thomas. Dieu ne sera donc vu en aucune manière par un sens corporel. Parce que les sens corporels n'ont pas, si vous voulez, la grandeur nécessaire pour comprendre les choses de Dieu. C'est absolument impossible. Dieu ne peut en aucune manière être vu du regard corporel, ni être perçu par quelque sens, quel qu'il soit, comme une chose visible par soi, ni ici-bas, ni dans la patrie. Alors, qu'en est-il des saints? Est-ce que les saints, voyant Dieu, voient tout ce que Dieu voit? Réponse de saint Thomas, nul autre que le Christ n'a le pouvoir de connaître toutes choses dans le Verbe, donc de voir toutes les choses telles que Dieu les voit. Dieu, en connaissant son essence divine, connaît tout ce qui est, tout ce qui sera, tout ce qui a été. Et ce mode de connaissance est appelé connaissance de vision. Appelée connaissance de vision parce qu'elle est semblable à la vision corporelle qui connaît toutes les choses présentes. Mais en voyant son essence, Dieu connaît en outre tout ce qu'il est capable de faire, bien qu'il ne l'ait jamais réalisé et ne le réalisera pas. Donc Dieu connaît aussi des possibles qui ne sont jamais passés en acte. Or, il est impossible qu'une intelligence créée pour nous les hommes, en voyant l'essence divine, connaisse toutes les choses que Dieu peut faire. C'est impossible parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous serons d'une certaine façon divinisés par la vision divine, mais nous ne serons pas, nous ne deviendrons pas Dieu pour autant. Donc, les choses que Dieu connaît par science de vision peuvent être connues dans le Verbe par un esprit créé, c'est-à-dire l'âme du Christ. Donc, chacun de ceux qui voit Dieu en son essence voit d'autant plus de choses en elle qu'il la pénètre plus clairement. Donc, selon le degré de gloire des gens au paradis, il y aura une compréhension de Dieu qui sera différente. C'est évident que la très sainte Vierge Marie comprend Dieu beaucoup plus parfaitement que nous, que les autres élus. Voyez ? Encore une fois, vous voyez, saint Thomas ne cherche pas à éliminer le mystère. Personne ne peut comprendre exactement ici-bas ce qui se passera au paradis, c'est absolument impossible. Donc, toute connaissance qui perfectionne l'intelligence, créée, est ordonnée comme à sa fin la connaissance de Dieu. Donc, en voyant Dieu en son essence, même si l'on ne voyait rien d'autre, l'intelligence serait parfaite. Alors, il cite ici saint Augustin, « Malheureux l'homme qui connaît toutes les choses créées et vous ignore. Bienheureux celui qui vous connaît, même s'il ignore tout le reste. Celui qui vous connaît et aussi d'autres choses n'en est pas plus heureux, il n'est bienheureux qu'à cause de vous seul. » Très belle phrase de saint Thomas. Seul Dieu peut remplir notre intelligence. On ne peut pas remplir notre intelligence avec des choses créées. C'est absolument impossible, il manquera toujours quelque chose. C'est le cas au paradis. Donc au paradis, notre intelligence qui sera toujours là, dans notre âme glorifiée, ne pourra se satisfaire que de Dieu, ne cherchera pas d'autre chose que Dieu. Pourquoi? Parce que l'essence divine est le principe de toutes les choses connaissables, dit saint Thomas. Donc les âmes verront alors plus ou moins de choses selon le degré de clarté de leur connaissance de Dieu. Et c'est ainsi que l'âme du Christ illuminera les autres âmes au sujet de ce qu'elles voient mieux qu'elles dans le Verbe. Donc le degré de clarté de la connaissance de Dieu des différentes âmes va dépendre du degré de charité de ces âmes aux siennes. Il est évident que le degré de charité de la Très Sainte Vierge Marie est infiniment supérieur ou largement supérieur à notre degré de charité ou au degré de charité des autres élus au ciel. Alors, voyons maintenant la béatitude des saints et les différentes demeures des saints. Alors, est-ce que cette béatitude des saints, c'est la question 93 du supplément article 1, est-ce que cette béatitude des saints sera plus grande après le jugement qu'auparavant? Et saint Thomas va répondre positivement. La béatitude des saints sera plus grande après la résurrection des corps. Donc la béatitude des saints sera augmentée en étendue après la résurrection, mais elle ne sera plus seulement de l'âme, mais aussi du corps. Elle ne sera plus seulement de l'âme, mais aussi du corps. La béatitude de l'âme elle-même sera accrue en étendue, puisqu'elle ne jouira pas simplement de son propre bien, mais aussi du bien du corps. Donc l'âme et le corps jouiront de façon commune, de façon unie, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, encore une fois, c'est un grand, grand mystère. Alors, c'est un petit peu l'explication de la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aura plusieurs demeures dans la maison du Père. Une phrase bien mystérieuse. Eh bien, ces différentes demeures dans la maison du Père correspondent aux différents degrés de béatitude. On doit donc y distinguer diverses demeures selon les différents degrés de béatitude. Donc, pourquoi? Parce que ça dépend des différentes manières d'atteindre sa fin ultime. On donne donc le nom de diverses demeures aux diverses manières d'atteindre sa fin ultime. Saint Thomas va prendre un exemple. Le lieu élevé vers lequel tendent les corps légers, le même pour tous, mais chacun d'entre eux en approche plus ou moins selon son degré de légèreté. Ils ont donc des demeures différentes selon leur différence de légèreté. Cette légèreté, en quelque sorte, correspond au degré de charité. Ceux qui ont pratiqué la vertu de charité de façon extraordinaire ici-bas auront un degré de gloire donc largement supérieur aux autres. Alors, saint Thomas a fait une remarque intéressante. Il dit que ceux qui étaient dans les larmes ou sont maintenant et qui sont maintenant... Attendez, il y a une faute dans mon texte. Ceux qui sont maintenant dans le purgatoire, pardon, ne sont pas parvenus à leur fin. Il n'y a donc pas de demeure dans le purgatoire ou les limbes, mais seulement dans le paradis et l'enfer, où se trouve la fin des bons et des méchants. Donc, au ciel, notre degré de gloire dépendra du degré de charité. Et le degré de souffrance des damnés en enfer dépendra aussi du degré de perversion de ces âmes. Toutes les âmes ne seront pas égales dans leur souffrance en enfer. Il va d'ailleurs le redire à la question 93 du supplément, dans l'article 3, en se posant la question suivante. Les diverses demeures se distinguent-elles selon les degrés de charité? Bon, donc on a déjà vu tout ça. La diversité de la béatitude correspondra à la différence de charité. Quoi, la charité, c'est l'amour de Dieu. Donc la charité constitue formellement la mesure de la gloire. Plus la charité est grande, plus le degré de gloire sera grand au ciel. Alors, saint Thomas va même plus loin dans son enquête. Il cherche à savoir, est-ce que les saints verront les souffrances des damnés? Et donc, saint Thomas répond, et cite Isaïe, ils sortiront, verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. C'est pourquoi, pour que la béatitude des saints leur plaise davantage et qu'ils en rendent à Dieu de meilleures actions de grâce, il leur est donné de voir parfaitement les souffrances des impies. Donc à la fois la gloire de ceux qui sont dans la béatitude du ciel et en même temps pour comprendre la chance qu'ils ont d'être au ciel, ils verront d'une certaine façon les souffrances indicibles des damnés en enfer. Mais attention, c'est bien que les saints puissent voir, dit saint Thomas, d'une certaine façon, les souffrances des damnés en enfer, les bienheureux ne peuvent point participer à aucune souffrance. Donc ils n'auront point de compassion pour les souffrances des damnés. Ça leur laissera, si vous voulez, ça va leur aider à comprendre la grande miséricorde du bon Dieu. Ça va leur aider à comprendre la justice de Dieu. Et cela ne va pas leur faire disparaître la joie extraordinaire qu'ils ont au ciel. Ils ne seront pas malheureux de voir et de comprendre la souffrance des damnés. Au contraire, la souffrance des damnés leur aidera à comprendre que la justice de Dieu passe en action par justement ces degrés de souffrance. On comprendra beaucoup plus au ciel la miséricorde de Dieu à notre égard. Rappelez-vous la formule qui est très bonne. Si je vais au ciel, c'est grâce à Dieu. Si je tombe en enfer, c'est de ma faute. Alors, Saint Thomas va détailler les choses en disant « Les saints se réjouiront des peines des impies en considérant l'ordonnance de la divine justice pour ceux-ci et leur libération personnelle, source de joie. Ainsi, la justice divine et la libération des bienheureux seront par elles-mêmes cause de joie, tandis que la peine de damnés ne sera que par accident. » Si vous voulez, les peines des damnés les aidera à comprendre l'extraordinaire justice de Dieu pour les damnés et miséricorde pour les élus. Alors, saint Thomas va maintenant parler un petit peu des bienheureux. Donc c'est la question 95. Alors, on voit que saint Thomas avait posé des questions que nous, on ne se pose pas beaucoup. Par exemple, question 95 du supplément article 1, doit-on attribuer des dots aux hommes bienheureux? Voilà ce que dit saint Thomas. Quand les saints pénètrent dans la maison du Christ pour entrer dans la béatitude, il semble qu'ils soient dotés de divers dons. Il n'est pas douteux que les bienheureux, quand ils entrent dans la gloire, reçoivent de Dieu des dons pour leur ornementation, l'ornementation de leur âme, et ces dons honorifiques sont appelés dots, D-O-T-S, par les maîtres spirituels. La dot, on peut dire ça, les dons spéciaux de Dieu, sont des ornements perpétuels de l'âme et du corps qui s'ajoutent à leur vie en et persévérant sans interruption dans la béatitude éternelle. Donc Dieu va en quelque sorte augmenter de façon substantielle la beauté des âmes des élus. Bien que, encore une fois, puisqu'il y a différentes maisons, demeures dans la maison, dans le ciel, encore une fois, ces beautés seront diverses. C'est ça qui fera aussi la grandeur du ciel. Chacun sera récompensé en fonction de sa façon d'avoir répondu aux grâces de Dieu. Et en fonction des grâces qu'il a reçues de Dieu. Alors, saint Thomas précise que cette attribution des dons, bien que faite par les trois personnes de la Sainte Trinité, peut être appropriée à chacune d'elles de quelque manière à la personne du Père. En tant qu'il donne, puisqu'en lui est l'autorité, la paternité lui est appropriée à l'égard des créatures, de telle sorte qu'il est à la fois père de l'épouse et de l'époux. Mais cette attribution des dons est aussi attribuée à la personne du Fils, en tant qu'elle est donnée à cause de lui et par lui. Elle est attribuée aussi au Saint-Esprit, en tant qu'elle est donnée en lui, selon lui, car l'amour est la source de toute donation. Donc c'est pour ça qu'il dit que cette attribution de ces dons est faite par chacune des trois personnes de la Sainte Trinité. Alors, ces dons, est-ce que c'est la même chose que la béatitude? Ces ornements du corps et de l'esprit qui persévèrent sans interruption dans la béatitude éternelle. Donc, alors ces dons se donnent sans être mérités, dit saint Thomas. La béatitude, au contraire, n'est pas donnée, mais elle est accordée au mérite. Donc, pas un don en tant que tel. Elle n'est pas une dot. Donc, il distingue les deux choses. Donc, les dons de beauté extraordinaire que va donner Dieu à chaque âme, qui sont différents pour chaque âme, et sont fruits de la pure miséricorde du bon Dieu, qui rajoute, en plus de la béatitude, qui rajoute certains dons de beauté extraordinaire pour les âmes. Donc il fait une distinction en disant que la béatitude consiste en une opération, tandis que ses dons, la dot, n'est pas une opération, mais plutôt une qualité ou une disposition. Donc les dots, les dons, sont ordonnés à la béatitude, plutôt qu'elles n'en sont des parties. La béatitude de Dieu, c'est la vision de Dieu. D'accord ? Et ces dons que Dieu donne à certaines âmes, selon son bon vouloir, c'est quelque chose de différent qui est rajouté à la vision de Dieu. Alors, saint Thomas précise que ces dons qui sont donnés à l'épouse donc n'appartiennent pas au Christ. Donc il n'est pas convenable, pense saint Thomas, que des dons soient donnés au Christ. Dans le Christ, il n'y a pas de distinction de personne avec le Fils de Dieu qui est époux. Hein, celui qui possède l'épouse est l'époux, dit saint Jean. Donc puisque les dots sont donnés à l'épouse, il semble qu'il n'appartienne pas au Christ d'avoir des dots. Donc ces dons ne sont pas donnés au Christ, parce que le Christ a déjà tous les dons en lui-même, puisqu'il est Dieu. C'est la même chose pour les anges, puisque les dons, ces dots, ne sont dus qu'à l'épouse, il semble que les anges, ne doivent pas en avoir. Hein? Alors, saint Thomas parle de ces différents dons, et il va distinguer trois sortes de dons, la vision, la dilection, la fruition. Alors encore une fois, ce sont des explications que donne saint Thomas, les pères ne sont pas forcément d'accord sur ces explications, il y a une variété dans les explications. Ces trois dons donc répondraient aux trois vertus théologales. À la foi, c'est la vision, à l'espérance, la prise de possession, la fruition, la jouissance, selon une manière de la concevoir, et à la charité, la fruition ou la délectation. Donc pour l'espérance, je reprends le texte juste au-dessus de saint Thomas, la vision, la dilection, la fruition. Donc la vision correspond à la foi, la dilection correspond à l'espérance, et la fruition correspond à la charité. Alors, saint Thomas va maintenant, dans les dernières questions de ce traité, donc c'est les questions 96, 97, 98 et 99. Donc, dans la question 96, saint Thomas va parler des auréoles, hein, ce qu'on appelle les auréoles, qui ont attribué aux différentes formes de sainteté. L'auréole d'une vierge, par exemple, n'est pas la même auréole que l'auréole d'un martyr. On va expliquer un petit peu tout ça, c'est très intéressant. Donc, il y a des auréoles pour les vierges, les martyrs et les docteurs, entre autres. À question 97, il va parler des punitions chez les damnés. 98, sur la volonté et l'intelligence chez les damnés. Dans quelle mesure demeure-t-elle chez les damnés. Et enfin, question 99, sur la miséricorde de Dieu et sa justice qui se manifeste à l'égard des damnés. On verra comment, d'une certaine façon, Dieu manifeste aussi, c'est un grand mystère, mais c'est quelque chose dont on expliquera avec saint Thomas, que Dieu manifeste aussi sa miséricorde à l'égard des damnés en ne les punissant pas autant qu'il devrait. Alors nous verrons un petit peu tout ça la prochaine fois, parce que j'ai encore besoin d'un dernier cours pour terminer donc ce texte de saint Thomas. Alors je vais arrêter là, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Petite note, donc certaines personnes peuvent s'étonner de voir que j'ai mis beaucoup de cours en avance sur le site. C'est tout simplement que je suis actuellement en l'île de la Réunion pour 3 semaines de mission auprès de fidèles là-bas, et j'ai pas mal de temps à moi. Donc j'ai profité de ce temps, comme j'aurais pu perdre mon temps, j'ai profité de ce temps pour terminer les cours de la somme théologique. C'est pour ça que je les mets, puisque dès qu'ils sont terminés, qu'ils sont faits, je les mets sur le site. Et je vais essayer aussi également de terminer, si c'est possible, l'exégèse de l'évangile selon saint Matthieu. Donc je ne reprendrai pas les cours de saint Thomas d'Aquin, puisque la somme théologique aura été complètement achevée, ou complètement terminée. Mais évidemment, je rajouterai après les 3 autres évangiles, donc sur saint Marc, saint Luc et saint Jean. Ça prendra encore plusieurs années. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse tous.